Les blablabla de SS, c'est sérieux,
sans prendre au sérieux.
Bonsoir, bienvenue au blabla de l'ESS, organisé par le pôle essentiel Bleu Hermel, en partenariat avec le café associatif de La Forge, qui nous accueille ce soir à Guillac. Les blablas de l'ESS est aussi organisé dans les cafés associatifs de La Source à Monteneuf, où nous étions le mois dernier, et au café coopératif L'Estaminet du Champ commun à Augan, où nous serons en janvier. Nous sommes aussi en partenariat avec la radio associative Timbre FM, qui est présente ce soir, qui enregistre nos soirées et qui nous permet de réécouter les échanges sur leur site internet et sur le site d'Essentiel Bleu Hermel. Ce soir, on poursuit un cycle qui est consacré à l'éducation. On va s'intéresser au métier de professeur des écoles en milieu rural. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Henri-Georges Madeleine, le pilote des Blablas, et j'espère que vous êtes bien installés. À tout à l'heure.
Bonsoir tout le monde, et puis merci d'être venu. Vous savez qu'on commence toujours par la présentation d'une petite vidéo qui met en jambe, fait un peu une rupture, qui nous lance progressivement dans le débat. Cette fois-ci, nous avons choisi une vidéo qui va certainement rappeler des souvenirs à plein de gens, et moi en premier, je dirais, puisque je me souviens que j'étais à Montréal, dans la neige avec certainement un mètre de neige. Moi, j'y ai vécu pendant 7 ans et je suis allé voir ce film qui s'appelle Être et avoir et qui est certainement un peu une icône. Ce sera à vous en tant que professionnel de nous dire si ça a un rapport avec la réalité ou pas, mais moi ça me rappelait plein de choses en fait, et notamment la France, mais aussi mes oncles qui étaient instits en milieu rural, en Limousin. Et donc, je pense que vous allez avoir aussi ces émotions. Je pense que c'est un peu risqué. C'est Patricia qui nous a choisi les parties les plus sympathiques du film. Donc, je pense que si moi-même j'ai quelques trémolos dans la voix quand on recommence, ben vous m'excuserez. À tout à l'heure, dans une dizaine de minutes.
Allez-y, rentre ici. Votre école là. Il y a Valentin qui est derrière là. Allez, vous connaissez tout le monde ?
Oui.
Soyez-vous. Alors je vous présente vos copains. Hein ? Alors là c'est des grands. Alors celle-ci s'appelle Nathalie. Ça c'est Julien, Guillaume, Jonathan et Olivier. C'est les grands. Mais l'année prochaine il n'y aura plus que Guillaume. Hein ? Ici c'est Axel. Et ça c'est Laura. Elle s'appelle comme toi. Il y aura deux Laura. On va pas. Et puis. Là, il y a Jojo. Tu le connais ? Venez les voir, les petits. Venez. Allez, venez. Alors, ça, c'est Johan. Jojo. Laetitia. Jessie. Vous voyez, celle qui a un petit truc comme ça sur la tête. Jessie. Là-bas, c'est Marie. Tu la connais, Marie ? Tu as vu où elle est, Marie, ta sœur ? Ouais. Et là, c'est Alizé.
Léa.
C'est Léa.
Moi, Thomas.
Thomas.
Océane.
Océane. Et toi, tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Dis-leur comment tu t'appelles. Je m'appelle. Comment ? C'est Valentin. Alors, voici un autre Valentin. On a deux Valentin dans l'école maintenant.
Oui.
Et deux Laura aussi. Hein?
Oui.
Et Laura, tu étais à l'école où avant ?
Auvergne.
Elle était à l'école Auvergne. Voilà. Alors tu seras avec Laura et avec Axel l'année prochaine. Vous serez trois. Vous serez tranquille. Hein? Tu la connaissais, Laura ? Vous ne connaissez pas ? Mais voilà.
Moi, je suis trop
déçue. Mais toi, tu connais tout le monde, alors c'est normal. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez vous asseoir avec vos copains là ou aller là-bas, à la petite table ? Vous voulez faire des jeux ? Hein, vous voulez jouer ? Allez, c'est Marie et Laetitia. Vous allez montrer les jeux aux petits, là-bas. Allez, va jouer, Valentin. Regarde.
Non.
Allez. Tu lui montres comment on joue. Qu'est-ce que tu veux, Valentin ? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ta maman? Mais elle va venir. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais elle va venir te chercher, ta maman. Hein? Elle va venir te chercher. Tu restes un petit moment avec nous, et puis elle va venir te chercher bientôt. Hein? Regarde, tu es avec tout le monde, là. Regarde, Léa, elle pleure pas. Thomas, il pleure pas. Regarde, ta sœur, Océane, elle est là. Tu veux te mettre à côté d'elle? Hein? Tu veux dessiner? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un jeu? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais elle est là, maman. Elle est dehors. Elle est allée se promener, puis elle revient te chercher. Bientôt, elle arrive. Bon, je vais te poser, tu fais comme tu veux, tu joues, et ta maman va venir dans un moment. On ne peut pas l'appeler tout de suite. Hein. Tu veux te mettre à côté d'Océane, viens. Allez. Allez, reste avec Océane. Là. Tu gardes ton petit frère, hein? Elle va venir. Hein? Tu peux pas... Il faut que tu l'attendes. Il hein? faut que tu l'attendes. Océane, elle attend, elle est gentille, regarde. Elle joue, et Valentin aussi joue, tu vois. Et toi, tu veux y jouer aussi? Est-ce que tu en veux pour y jouer? Fais-le jouer, Alizée. Fais jouer Valentin. Allez, Marie aussi. Il veut pas? Ben, on le laisse faire. Elle est pas partie, ta maman. Elle t'attend. Tu veux la voir? Mais tu vas la voir, mais pas tout de suite. Hein? Ah, ne crie pas trop fort.
Maman!
Elle va venir te chercher après, ta maman.
Tu veux pas jouer au 4-4?
Elle va venir,
elle va venir.
Elle va venir
tout à l'heure. Elle n'est pas perdue, elle est là.
Bon, alors, c'est le moment où on va parler de vos résultats et de votre. Savoir si vous allez en 6e ou pas. Donc, Julien, bien que tu n'aies pas eu des résultats, on va dire, complètement suffisants, on a pensé que tu pouvais aller en 6e. Donc tu rentreras au collège que tu as visité, au collège Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc tu seras en 6e. Mais il faudra peut-être que tu t'approches sérieusement dès le début. Hein. Je viens de te dire que tu n'as pas eu des résultats complètement suffisants. Donc ça veut dire que tu dois peut-être améliorer des choses, non? Et quoi particulièrement?
Les maths.
Les maths? C'est tout?
Le français.
Oui. Ça fait beaucoup de choses, ça, déjà, des maths et du français. Hein? Non? Moi, je pense que tu dois améliorer sérieusement ton comportement. Parce que tu vas plus avoir quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de toi individuellement. Hein? Et puis, les sanctions, peut-être, seront plus dures hein, après, hein, Julien. Selon le comportement que tu auras, hein, quand tu refuses, quand tu contestes, quand tu n'es pas d'accord, hein, quand tu t'en fous, parce que ça se voit sur toi quand tu t'en fous, hein, quand tu gonfles les joues. Moi, je ne pourrais plus t'aider de près, hein, de loin peut-être, mais de près, je ne pourrais plus. Bon, alors Olivier, rentre en 6e aussi au collège Saint-Germain. T'es content?
Oui.
Bon. Alors par contre, il faudra aussi, hein, comme Julien, il faudra que tu améliores beaucoup tes résultats. Hein. D'ailleurs, pour tous les deux, j'ai demandé à quelqu'un qui viendra vous voir pour faire travailler en plus du travail que vous faites, vous remettre au niveau. Hein, dans les matières où vous ne serez pas assez fort. Hein. Donc vous serez tous les deux, Julien. Hein. Voilà. Alors quand vous serez déjà tous les deux, il vaudrait peut-être mieux vous entendre là-bas.
Hein. Oui, nous, on va se coller, hein, parce que si on ne connaît pas un peu.
Oui.
Vous allez quoi faire?
On va rester ensemble.
Oui. Mais bon, après, il faudrait que vous fassiez attention à ne pas vous oublier non plus.
Oui.
Hein? Et peut-être même à vous défendre mutuellement. Hein? Parce que vous n'oubliez pas qu'il y en a qui vont essayer de vous agresser au début. Ça existe, ça. Hein? Donc, toi qui es fort comme un Turc, Julien, si Olivier est en peine de... Hein? S'il est mal placé, si on l'agresse, il faudrait peut-être que tu fonces. Hein? Bon. Et toi, de toute façon, t'es pas maigrichon, hein?
Non.
Tu sauras te défendre aussi, hein? Hein?
Oui.
Bon. Alors, c'est quoi, en vérité? C'est que tu veux rester qu'avec toi-même? Ou c'est que tu sais pas parler aux autres? Tu n'y arrives pas? Tu Tu veux que je te dise ce que j'en pense, moi?
Oui.
Moi, je pense que tu en es capable, mais que pour l'instant, c'est pas encore le moment, que tu n'en as pas très envie. Est-ce que je me suis un peu trompé ou... C'est la vérité ou c'est pas tout à fait la vérité? Ça t'embête que je te parle de ça?
Non.
Non. C'est important qu'on en parle. Hein? Tu as fait beaucoup de progrès aussi pour parler avec moi, avec tes camarades, c'est vrai. Mais des fois, il y a des moments où c'est encore difficile pour toi. Donc ça, je l'ai écrit pour que les professeurs là-bas, ils sachent que c'est difficile pour toi. Hein? Il fallait leur dire, non? Tu penses qu'il fallait leur dire? C'est embêtant que je l'ai dit? Dis-le-moi, vraiment. Non? C'était bien, au contraire, que je les avertisse, comme ça, ils prendront soin de toi. Hein? C'est ça? Moi, je pense, tu sais, Nathalie, que ça va aller. Hein? Il faudra que tu feras encore quelques efforts, et ça ira très, très bien, à mon avis. Hein? Tu seras avec des plus grands que toi, tu auras des amis, hein? Et ce sera beaucoup mieux. Hein? Il faut bien qu'on se sépare un jour. Hein? Ça t'embête, ça, qu'on se sépare? Hein? Un petit peu? Alors, c'était juste pour que je puisse encore t'aider en prévenant les gens qui vont travailler avec toi. Hein? Pour le reste, ça ira, le travail. Tu aimes bien travailler? Hein? Est-ce que tu penses que tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à résoudre ce souci que tu as de pas pouvoir communiquer tout le temps? Hein? C'est important? Alors, on a bien fait d'en parler ou pas? On a bien fait?
Oui.
Bon. Tu es mieux maintenant qu'on en a parlé?
Hein? Oui.
Bon. Mais si tu veux, tu pourras toujours en parler avec moi. Hein, l'année prochaine. Tu as école le samedi?
Oui.
Eh bien, tu pourras venir. Ça te ferait plaisir de venir le samedi matin?
Oui.
Ah, ben alors, je t'attends dès le premier samedi. Hein? Tu viendras?
Oui.
Et tu pourras me raconter ce que tu as fait au collège. Plein de choses que je ne sais pas, moi. Parce que moi, je suis dans ma petite école, là, je vois pas ce qui se passe au collège, moi. Tu pourras me raconter, on pourra parler, tu me montreras ce que tu fais. Hein? Tu me parleras de tes résultats. Tu viendras en même temps que Laetitia, hein? Comme ça, on continuera à se voir. Tout le monde est prêt?
Oui.
Oui.
Bien.
Moi, j'ai arrêté avant de vous fermer les mains.
Eh bien, il fallait pas.
Moi, j'ai arrêté en même temps.
Bon, alors, vous allez sortir. Et c'est la dernière fois de cette année scolaire que vous sortez.
Au revoir, monsieur.
Vous voulez pas vous arrêter, là? Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Marie.
Au revoir,
Laetitia. Au revoir. Au revoir. Allez. Bon, je garde ces deux petits, alors. Au revoir, Laura. Allez. Au revoir, Rixen. Allez. Allez-y. Bon, il faut que je me lève pour les grands. Au revoir, Nathalie. Et travaille bien l'année prochaine. Salut. Salut. À bientôt.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, Jonathan.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Bon, j'ai réussi à être sérieux. Donc, parce que je peux vous dire que moi, quand je suis sortie de ce film, du visage de ce film, c'était donc en plein hiver, il faisait très froid, c'était dans la nuit. Et puis, je pense qu'avec les amis, on n'osait même pas se parler tellement on avait peur de craquer.
Les blablas, c'est d'abord un témoin.
Qui est le témoin ? Alors, on va commencer par présenter nos témoins. Je vais commencer par Marie, que j'ai sollicitée en premier, et puis qui nous a amené des collègues. Donc, si vous pouviez, Marie, les introduire aussi, si tu veux bien.
Bonsoir. Donc, moi, je suis Marie, je suis enseignante à Bignon. Donc, qui est plus tout à fait une petite école, puisque maintenant il y a 7 classes, mais qui est tout de même en espace rural. Mmh. J'ai aussi été enseignante dans des écoles de 2 classes et de 3 classes auparavant. Donc, avec moi, Yannick, qui est toujours en petite école.
Ouais, donc je suis à Saint-Brieuc-de-Mauron depuis 1996. Et c'est un regroupement pédagogique avec Brignac. Donc d'habitude, j'ai du CE1 au CM2. Et l'année dernière et cette année, j'ai du CP au CM2.
Donc c'est des classes multiples, comme on le voyait dans le film. Mais là, pas classe unique, comme ça.
Non, mais j'ai fait 4 ans de classe unique au départ, quand j'ai commencé.
Ok, très bien.
Bonsoir, alors, moi c'est Pascal. Je suis conseillère pédagogique avec Didier sur la circonscription de Plouermel, et puis on travaille avec Marie et Yannick, entre autres. Yannick, t'es quand même toute seule dans ton école. T'es la seule maîtresse. Il y a, et la collègue d'à côté, elle est à 3
kilomètres. Marie est en train de
faire une découverte, on dirait. Mais c'est vrai que c'est la seule maîtresse, et puis le regroupement, il est à 3 kilomètres, 4 kilomètres. Ouais. C'est ça, voilà, avec Armel.
Et Didier ?
Donc moi, je suis conseiller pédagogique avec Pascal sur tout le secteur, et on a 5 ou 6 écoles, 2 ou 3 classes, donc c'est vraiment les écoles. Alors tout ce qui est rural, ça dépend, parce que Marie, elle nous disait une école de 7-8 classes, Bignon. Alors tout dépend où est-ce qu'on place l'école rurale, hein, ouais, par rapport à la taille de la ville, par rapport au secteur. Où ouais. On peut avoir des grandes écoles en secteur rural et des écoles minuscules. Hein.
Oui, oui, effectivement, Bignon, la proximité avec le camp de Guercouët-Quidan, avec des activités économiques qui font que c'est une commune qui est peut-être démographiquement plus importante que ses voisines.
L'environnement reste quand même assez rural.
Quoi. Ah oui, c'est de toute façon.
Par contre, l'école, oui, c'est une grande école pour le coin et même de façon générale. Quoi. C'est une grande école.
Et est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire conseiller pédagogique ? Parce qu'il n'y a personne qui ose le demander.
Alors, conseiller pédagogique, en fait, on a notre bureau à l'inspection de l'éducation nationale à Plouermel et on couvre un rayon de 30 km autour de Plouermel. Nos collègues sont les enseignants des écoles publiques à 30 km à la ronde de l'inspection de l'éducation nationale. Alors, notre travail, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, chacun se l'invente parce que c'est vrai que c'est pas un travail très défini. On est conseil auprès des collègues, on doit intervenir auprès des conseils, on est formateur, donc on fait la formation des collègues, débutants et moins débutants, de ceux qui le veulent. Donc on va dans les écoles et puis on peut proposer aussi des séquences de travail sur des thématiques. On intervient auprès des collègues. Au lieu de viser la réussite d'élèves d'une seule classe, on essaie de viser la réussite de 3000 élèves en tout. Voilà.
Bah, elle est très modeste, hein, parce qu'ils font plein de projets formidables.
Par exemple ?
Eh bien, un projet sur la guerre 14-18, comme on avait fait, sur les arbres, sur en science, en littérature, enfin, un peu de tout.
Votre mission, que vous faites parfaitement, c'est justement de faire du lien entre nous. Parce que nous, bon, moi j'ai plusieurs collègues, on est 8 collègues à l'école, mais toi tu es toute seule, il y en a d'autres qui sont pas loin, c'est vrai, mais tout seul, c'est difficile de monter des projets et plein de choses, et nos conseillers pédagogiques montent des projets, donc font du lien entre nous. C'est vrai que les temps de formation sont des temps qu'on a à faire, mais en plus on les fait avec plaisir parce qu'on sait qu'on connaît les collègues à côté, on connaît les conseillers. Ça fait du lien dans des territoires où on est assez isolé de façon générale, qu'on est assez éclaté. Et je crois que le premier travail des conseillers pédagogiques, c'est de faire du lien entre les écoles pour pas qu'on se sente tout seul, quoi.
Une question là qui fait un lien avec le film, enfin ces extraits qu'on vient de voir. Est-ce que, bon, pour moi ce film là est une icône à plein d'égards, bon, mais est-ce que ça évoque des choses pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est loin de la réalité ou il y a des proximités avec ce que vous vivez? Comment tu ressens ça, toi, Marie? Tu me disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui te parle quand même.
Je trouve que les lieux, les bâtiments, ça ressemble beaucoup à quand j'étais en école de classe. Mmh. Et c'est vrai que c'est des échanges assez faciles avec les enfants. Dans la cour, quand ils sont 25, c'est pas aussi formalisé que quand il y a des tours de cour, tout ça. Et puis, on fait ou on fait pas les choses. Enfin, on les fait à un autre rythme et on est obligé parce que de toute façon, il y a plusieurs niveaux dans les classes. Et moi, j'aime bien ce film. Il y a des choses qui... Je m'y retrouve moins, mais il y a des choses, oui, qui ressemblent à ce que je faisais, ce que j'étais quand j'étais en deux ou trois classes.
Est-ce que c'est une impression qui est partagée aussi, Jenny?
Quand il était sorti, le film, j'avais bien aimé, mais je crois que j'avais beaucoup aimé les champs aux alentours. Ça me donnait très envie, cette école. Oui, moi, j'aime bien le mélange des âges. Donc, oui. J'aime bien le multiniveau, c'est pour ça que je suis restée en multiniveau, parce que c'est, oui, c'est ça, c'est un autre rythme. C'est pas... La seule expérience que j'ai en classe niveau simple, c'était pendant que j'étais à l'école normale, pendant les stages. Et j'étais pas forcément... Enfin, souvent, il y en a plus, déjà, il y a plus de gamins. Mmh. Moi, j'ai jamais eu... Le maximum que j'ai eu, c'est 24. J'ai jamais eu au-delà de 24. Et 24, c'est beaucoup en multiniveau, ça, c'est oui. suffisant. 27 avec un seul niveau, moi, ça me plaît pas plus. Enfin, c'est pas plus facile, en fait. Je trouve pas ça plus facile.
Oui. Et pourquoi c'est pas plus facile?
Pourquoi ce n'est pas plus facile? Parce qu'il y a plus d'enfants. je sais pas. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi, en faisant les stages, peut-être parce que j'étais débutante. Et... Moi, je trouve ça agréable. Enfin, les grands qui vont s'occuper des petits, moi, ça me plaît. J'aime bien quand ils vont les aider naturellement, ça me plaît. Mais sans doute que ça peut se faire en classe à un seul niveau aussi. Je suppose.
Est-ce que cette situation de classe multiniveau, c'est pas justement une des composantes principales du fait d'enseigner en milieu rural, au primaire? On a fait le mois dernier un premier blabla sur ces thématiques proches à Monteneuf, et c'est ce qui ressortait véritablement. Les témoignages les plus intenses étaient des témoignages de classe unique ou classe multiniveau.
Moi, je sais, quand j'étais en multiniveau, j'ai eu trois niveaux, mais pas plus. Ce qui est bien, c'est que quand on a un petit groupe, on est vraiment avec tous les enfants du groupe. Après, quand on a un cours simple ou un cours double où on a 12 élèves de chaque côté, ou peut-être 18 et 6, ben, dans un groupe de 18, c'est plus difficile d'être proche de chacun d'eux. Mmh. Par contre, quand on a des petits groupes de 3, 4, 5 élèves, le moment où on s'occupe d'eux, mais ça peut pas être toute la journée, donc parce qu'il y a plusieurs niveaux, on est vraiment avec eux, quoi. On les connaît tous individuellement sur un truc. Ça, c'est vrai que c'est le côté plaisant du multiniveau. Bon, ceci dit, moi, je retourne pas en multiniveau tout de même. Mais il y a quand même des moments, ouais, qui sont chouettes, qui sont vraiment particuliers.
Là, en fait, on voit dans ces extraits qu'il y a une connaissance de la famille. Est-ce que c'est une idée reçue que c'est plus facile aussi en milieu rural d'avoir un contact plus direct avec les parents, avec la famille? Est-ce que c'est un avantage dans votre métier?
Je ne sais pas. Ça dépend aussi si on habite sur place, si on est loin ou pas. Si on habite dans le bourg, on les connaît tous.
Oui.
Donc je suppose qu'ils rentrent plus facilement dans l'école. À Saint-Brieuc-de-Moron, ils rentrent très facilement à l'école. Ils viennent chercher leurs enfants, ils les amènent. Enfin, là, qui prennent le car, la navette, mais autrement, ils rentrent dans l'école très facilement.
Oui.
Ils sont pas intimidés, non.
L'école fait partie de leur monde, alors que peut-être que dans d'autres contextes, il y a une séparation, non?
Peut-être. Et puis, on a une amicale laïque qui fonctionne vraiment très bien. Pratiquement tous les parents sont dedans, donc tout le monde aide. Donc, on peut pas les laisser à la porte de l'école si on leur demande par ailleurs. Oui. De l'aide, je trouve que ça fait partie d'un tout.
Et ce tout, c'est une collaboration, pas uniquement sur des questions matérielles, et c'est des relations qui sont des relations humaines, de soutien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent en tant qu'enseignante, Marie?
Ouais, mais ça, on le ressent aussi, surtout quand on reste longtemps dans un poste, que ce soit un multiniveau encore plus ou... simple ou double niveau, si on reste longtemps dans un poste, oui, on a une proximité de toute façon avec les gens. C'est en plus quand si on les côtoie par ailleurs à d'autres activités en dehors de l'école.
Et est-ce qu'il y a des désavantages à être professeur des écoles en milieu rural?
Oui, moi je trouve que c'est la somme de travail qu'on a à fournir, mais peut-être que c'est aussi parce que souvent en fait ce sont des postes qui ne sont pas très attractifs, donc ce sont les jeunes enseignants qui les ont. Et déjà, jeunes enseignants, on a beaucoup de travail. Alors, jeunes enseignants multiniveaux, on en a énormément. Et finalement, après, on se dit que c'est plus calme quand on n'a plus que deux ou un seul niveau et on n'y retourne pas forcément. Mais je ne sais pas, quand on y est comme toi depuis très longtemps...
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai... Oui. Ma fille me le reproche, que j'ai passé trop de temps à l'école.
Mais à côté de ça, est-ce qu'il y a des... désavantages par rapport à des parcours de carrière, en fait, à être en milieu rural par rapport à des collègues qui seraient en milieu urbain?
Moi, je vois que des avantages.
Oui.
Oui, sur la carrière, non, il me semble pas.
Pas sur la carrière, moi, non.
Non. Non, là, c'est encore le service public, heureusement, quoi, en fait. Oui. Et donc, que des avantages, tu disais?
Bah, parce que... Mais c'est moi, je me plais aussi. Je vois que des avantages, oui. Même si je suis aussi fatiguée et que il y a des années plus ou moins difficiles, j'ai pas le moral des fois le soir, mais le lendemain j'ai toujours l'enthousiasme et je me dis aujourd'hui ça va être une journée formidable. Bon, après des fois à 9h10 je me dis bah non, finalement ça va peut-être pas être si formidable que ça. Mais bon,
tout seul on est que avec soi-même, donc généralement on s'arrange pour s'entendre bien avec soi-même.
Oh, mais ça, quand on est
oh, mais après on peut s'en prendre qu'à soi-même, quoi.
Oui,
mais
c'est ça,
quand on est juste deux ou trois collègues, si on est avec un collègue avec qui on s'entend pas, là ça devient vite très lourd, quoi. Quand on est dans une école plus grosse, bon bah voilà, il y a des gens avec qui peut-être on s'entend mieux, mais on fait plus avec l'un, moins avec l'autre. Mais si on est deux et que l'ambiance est lourde, là c'est, les journées sont longues.
Et justement, ça veut dire que votre travail, c'est pas uniquement le rapport aux enfants, c'est justement aussi la communauté éducative, c'est les relations avec d'autres interlocuteurs, etc. Quoi. En fait, c'est des choses qui sont un petit peu la partie immergée de l'iceberg, qu'on voit pas trop.
Bon, c'est principalement, c'est vrai, avec les enfants et dans la classe. Dans la classe, on est souvent le seul adulte 6 heures par jour. Mais après, oui, les interactions avec les collègues, quand on en a, avec les conseillers PEDA, avec l'inspection, nous, il y a quand même, peut avoir des relations qui sont différentes suivant les situations. Mais toi, je ne sais pas si tu as beaucoup de relations avec...
Avec Armel qui est ma collègue de Brignac qui a les maternelles. Pour nous, on est comme une seule école. On ne se voit pas tous les jours, mais on est tous les jours au téléphone, au moins une fois, je pense. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble.
Donc oui. Voilà.
En étant directrice, évidemment, j'ai des relations avec la mairie.
Oui, et c'est quoi ce type de relation, c'est quoi? Allons-y.
Moi, je faisais un petit film, ce n'était pas forcément pour les relations. J'avais une question à poser à Yannick. Yannick, les enfants, tu les as entre 4 ou 5 ans, puisque CP, ouais. CE1, CE2, CM1, CM2. Est-ce que tu as l'impression qu'au bout d'un certain temps, il y a une usure, qu'ils connaissent parfaitement? C'est une impression que j'ai eue, moi, à un moment où j'étais dans les écoles rurales, qu'ils connaissent parfaitement ton fonctionnement, qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où... Est-ce que tu as l'impression que les CM1, CM2, ben, au bout d'un moment, il y a un petit peu cette limite-là, à les avoir longtemps, 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 qu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils...
Qu'ils en profiteraient un petit peu. Bah peut-être. Peut-être. Non, je pense pas. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont quand même... Ils sont bien, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont... ils sont... C'est vrai, ils sont sympas, ils sont épanouis. Ils sont... Alors peut-être qu'ils en profitent un peu des fois. C'est possible.
Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des élèves comme Nathalie, là, qu'on voit dans le film, qui est un petit peu, peut-être, hein, on ne sait pas, c'est plutôt le maître qui le dit que l'élève, mais qui a l'air d'être un petit peu en panique à l'idée de quitter l'école où elle est restée longtemps. Est-ce que as déjà vécu ce type de moment?
Rarement. Rarement, et puis d'autant plus qu'ils font des journées d'intégration au collège. Donc ils passent deux jours, là ils vont passer une au mois de janvier, une autre au mois de mai, je crois. Ils ont hâte d'y aller. Hein. Puis une fois qu'ils y sont allés, alors là, ils changent les CM2. Ils se prennent pour des grands. Bon, voilà, ils changent. Ils sont déjà en sixième. Ils sont déjà en sixième dans leur tête. Donc, ils n'ont pas du tout d'appréhension. Ils ont hâte.
Sur cet exemple avec Nathalie, là, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est posture presque de psychologue, de l'enseignant. Il est en réparation, parce que j'imagine qu'il identifie, c'est que c'est une petite qui est assez en renfermée, etc. Est-ce que c'est des dimensions auxquelles vous êtes confrontés, sur lesquelles vous avez à agir aussi? Est-ce que c'est fréquent, en fait? Ou alors ils sont tous bien épanouis, etc., comme tu laissais l'entendre, Yannick?
Non, moi j'en ai eu, oui, qui se demandaient vraiment où ils allaient atterrir. Hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, il n'y avait pas vraiment de liaison avec la sixième, et ils se retrouvaient dans une ville qui était assez grande, dans un collège qui était assez grand. Ça dépend aussi du collège où ils vont après, s'il y a de la proximité ou autre. Moi, ils partaient vraiment de la campagne pour aller à la ville, quoi. Pour certains, c'était, oui, assez difficile.
Mais bah, j'ai des attaches campagnardes aussi, mais bon, je suis un gars des villes quand même. Et je suis frappé devant chez moi le matin, il y a les enfants qui attendent le bus scolaire et vraiment relativement tôt. Et je me dit qu'il y en a qui sont tout minots comme ça, en fait, et ça fait ça doit être pas mal traumatisant que d'avoir à faire face à ces évolutions. C'est pas simplement le contexte, il y a pas mal d'obligations qui vont au-delà même de la dimension scolaire.
Vous parliez du rôle un petit peu psychologique de l'accompagnement. Alors, dans l'extrait de film, il y a quelque chose qui est quand même marrant, parce qu'il passe quand même beaucoup de temps à rassurer Nathalie, à la mettre dans de bonnes conditions, mais il passe quand même un petit peu de temps à faire peur aux deux autres et à commencer à leur dire qu'ils rentrent dans un monde de terreur. Donc la dimension psychologique, elle est à double tranchant. Là.
C'est vrai que les enfants qui viennent du rural, moi j'étais en Seine-et-Marne, donc c'était rural et semi-rural aussi, ils sont dans des milieux protégés à la campagne souvent. Et ils sont tout à fait surpris. Alors, le jour où ils font une intégration au collège, c'est steak frites. Donc, ils sont amadoués, mais la sixième, pour la plupart, est quand même assez difficile.
Oui, mais enfin, moi, je prends les enfants de Saint-Brieuc-de-Moron. Ils vont à Moron. Donc, Moron, c'est quand même pas très grand. Il y a, je sais pas, et pas plus de 200 élèves, je pense, au collège. Bon, des fois, c'est vrai, ils n'ont pas steak frites. Des fois, la journée d'intégration. Donc là, il y a une grosse déception, mais ils veulent quand même y retourner. Peut-être pour le steak frites, d'ailleurs.
Oui, mais je vois qu'il y a des recettes, quand même. Mais
autrement, l'histoire de prendre le car, mais comme les enfants, il y a un ramassage scolaire, donc déjà, ils sont habitués à prendre le car. Je ne pense pas que ça soit un souci pour eux.
Non.
Et puis dans des collèges ruraux, ben la plupart des gamins, enfin en tout cas beaucoup de gamins viennent de petites écoles aussi, ils sont un peu tous dans le même bateau. Mmh. Et puis il y a des plus grands, des frères et sœurs qui sont allés. Ça, je trouve que ça se passe à peu près, enfin aussi bien que dans un autre collège, quoi, que dans un collège de ville.
Mais est-ce que ça peut pas être au contraire quelque chose de stimulant pour que les enfants prennent peut-être plus de responsabilités, veillent les uns sur les autres, ou je me leurre.
Oui, c'est vrai, il y en a qui... Bah, ils se connaissent dans le car, même s'ils sont de niveaux d'âge différents, mais bon, ils prennent le car ensemble,
tout ça. Toujours à la même place, j'imagine.
Oui, voilà. Mmh. Et enfin, moi, je sais que c'était un peu comme ça quand j'y étais, et puis... Bah, si machin n'est pas à l'arrêt de car, on se demande où il est, s'il n'est pas à l'école. Il y a quand même une entraide, une solidarité qui se fait, moi je trouve, entre enfants qui viennent des petites écoles rurales du coin.
Oui, et il y a souvent un changement de statut parce qu'à l'école, ils sont les grands. Oui. Quand les enseignants du collège ils viennent dans les écoles, ils voient des grands enfants qui sont capables de se lever, de travailler tout seuls. Et tout d'un coup, ils arrivent au collège et tout le monde les reconsidère comme des tout petits enfants. Et les élèves, ils ont tendance à se remettre dans une posture de petits. C'est un peu la même chose qu'au CP et à la maternelle. À la maternelle, ils font plein de choses. Et quand ils arrivent en CP, c'est comme si on leur réapprenait tout alors qu'ils savent plein de choses. Et au collège, c'est encore plus tranché. Hein. Les enseignants de collège qui viennent dans les écoles primaires, ils se disent... On n'aurait jamais cru qu'ils savaient faire autant de choses, qu'ils étaient aussi grands. Et donc, il y a ce changement de statut. C'est pour ça que je dis que tout à l'heure, la psychologie à deux vitesses, il faut plutôt que les écraser un petit peu, il faut plutôt les aider à s'affirmer dans leur envol plutôt que de se dire comment ça te mettre dans une coquille, quoi.
Mais ils ont peut-être plus de liberté de mouvement aussi dans nos classes qu'au collège. Donc, enfin, nous, s'ils ont besoin de se lever pour aller chercher quelque chose, ils se lèvent, alors qu'au collège, ils n'osent pas, ou alors ils n'ont pas le droit, je ne sais pas. Ouais, ils n'ont pas cette même liberté, je pense. Ou de se déplacer pour aller travailler dans un autre coin de la classe. Ou...
Ça évolue quand même.
Oui, sûrement.
Et je me souviens, par rapport à ce que tu dis, Didier, je me souviens d'une fois, les collègues de Moron étaient allés voir vos écoles. Et le soir, on avait un conseil école-collège. Et il disait effectivement qu'il ne se doutait pas que les élèves savaient faire autant de choses tout seuls. Parce que finalement, dans les multiniveaux, on est obligé d'avoir du temps en autonomie. Mmh. On ne peut pas être tout le temps avec tous les enfants. Et du coup, ils sont peut-être plus, face aux apprentissages, ils sont peut-être plus débrouillards que des élèves qui ont été sur un seul niveau. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'impression qu'ils avaient le soir en se disant mais, enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, quand ils arrivent, on fait n'importe quoi. Finalement, on ne sait pas à quel point ils sont autonomes. J'ai l'impression que ça évolue quand même pas mal sur le collège. Oui. Et finalement, c'est peut-être les écoles de campagne qui font évoluer ce qui se passe en collège, t'imagines ?
Oui, pour rebondir sur évoluer, je suis sûr que ce sont les écoles de campagne qui font évoluer beaucoup de gens au niveau pédagogique. Parce que quand on est en campagne, on ne peut pas se mettre devant le tableau et parler à tout le monde en se disant peut-être qu'il y en a qui écoutent, peut-être qu'il y en a qui écoutent pas. Comme tu disais, Marie, on est obligé de se mettre par petits groupes. Donc, si je me mets par petits groupes, qu'est-ce que je fais pour les autres ? Et si on ne perd pas ça, et ben, même quand on va dans des classes à niveau... avec plus de niveau, eh ben, on organise une pratique et on acquiert une expérience pédagogique beaucoup plus forte. Donc je pense que les écoles de campagne, quand on veut, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord toujours avec le film, mais quand on veut y mettre une dimension pédagogique, ben, je pense qu'on peut y créer beaucoup plus de choses et on peut aller chercher des choses, on est obligé d'aller les chercher. Donc ça fait avancer les choses.
Vous partagez ça, Marie ? Tu partages ça ?
Oui, moi je crois qu'on est obligé de faire beaucoup plus confiance aux élèves en fait, parce que si on travaille avec un groupe, ben, s'il y a trois groupes qui sont en autonomie, souvent la consigne c'est tout de même aussi vous me laissez travailler avec le groupe avec lequel je travaille. Après ils ont des choses à faire, mais dans la mesure, et enfin moi, quand j'y étais, même maintenant en double niveau, ils ont le droit de se lever pour aller aider l'un ou l'autre. Après, ils ont le droit, s'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, de faire autre chose, mais en respectant le groupe qui est vraiment plus en apprentissage. Et on est obligé de leur faire confiance parce qu'on ne travaille pas avec tous en même temps. Donc, et puis finalement, ils aiment bien cette confiance, ils font leur truc. Et puis après, quand on travaille en grand groupe, on s'aperçoit que bah, ils ont appris plein de choses, même en restant ensemble ou en... On leur donne une consigne, ils se débrouillent et puis bah ils se débrouillent pour trouver la solution, pour trouver comment faire. S'il faut aller chercher du matériel, ils y vont. S'il faut faire ceci ou cela, ils le font. Ils savent qu'ils doivent se débrouiller, donc ils se débrouillent.
Et est-ce que c'est quelque chose qui a évolué par rapport aux générations précédentes, en fait, cette capacité qu'ont les enfants à être plus, je dirais, proactifs ou aller apporter des choses eux-mêmes.
On est l'entrée par les enfants. Hein. Je pense que de tout temps, ils ont eu cette capacité-là. Et c'est plutôt les enseignants qui doivent être proactifs et de plus en plus accepter un certain lâcher-prise, accepter de travailler avec des petits groupes. Et s'il y a une évolution, ça vient de la confiance que donnent les enseignants. Oui. Mais là, on parle d'apprentissage. Moi, j'ai aucun doute qu'on apprend aussi bien dans les petites écoles rurales que dans les grandes. Même peut-être on est plus vigilant. La limite que moi j'aurais un petit peu peur dans les écoles rurales, c'est au niveau de l'épanouissement des enfants. Si par exemple on a un petit garçon qui est tout seul sur plusieurs années ou une petite fille, il faut pour trouver le copain ou pour trouver la personne qui nous permette de nous épanouir, c'est là où il y a moins de choix par génération. C'est pas du tout au niveau pédagogique que ça m'impressionne les petites écoles. Alors c'est pour ça que je sais que, par exemple, à Saint-Brieuc, Yannick, vous allez avec l'école de Concoret, vous rencontrez d'autres écoles, vous amenez les enfants à se rencontrer entre eux. Et ça, je trouve que c'est important parce que, ben, si on est tout seul dans sa classe d'âge, on peut avoir un peu moins d'échanges. Hein.
Cette année, j'en ai un qui est tout seul dans sa classe d'âge. À nouveau. Il est arrivé en CM1. Bah non. Il a trouvé sa place. Après, il ira tout seul au collège. Mais bon, c'est quelqu'un qui peut le faire. Puis peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre CM1 qui... Enfin, un CM2 qui va arriver.
Oui, mais ça veut dire que si le CM2 arrive, il n'a pas le choix. Il doit être copain avec celui-là. Ah, oui, contrairement à des cohortes d'une vingtaine oui. où on peut trouver les affinités, oui. s'affirmer dans un groupe, apprendre à d'autres relations. C'est cette vie de groupe peut-être qui est un petit peu différente à apprendre. On l'apprend sur plusieurs générations. Moi, pour quand j'ai la période où j'y étais, par exemple, j'ai un enfant, j'avais quasiment que des filles du CE1 au CM2 et j'avais un gars qui traversait les générations comme ça. Alors, il jouait pas au foot, le pauvre. Hein. Il avait pas un copain à lui. Dans sa vie d'école au primaire, il a pas vécu une vie vraiment de copain. Ouais. Voilà. Au niveau de la construction de la vie sociale. Il se sentait un petit peu seul parce qu'il a pas trouvé d'affinité parmi. Moi, j'avais 12 élèves hein, dans la classe, donc faut trouver parmi les deux ou trois autres qui pourraient correspondre.
Donc, il y a peut-être un déficit d'offre sociale, quoi.
Oui, mais en même temps, ils se mélangent bien. Enfin, moi, je trouve qu'ils se mélangent vraiment bien, que ça soit pour travailler sur certains thèmes ou dans la cour de récréation. Peu importe, ça peut être des CM avec des CP. Hein.
C'est comme une fratrie, on n'est pas obligé de s'entendre bien avec son frère ou sa sœur. On n'est pas obligé de s'entendre qu'avec quelqu'un qui a le même âge que nous, quoi, effectivement.
Mais c'est peut-être des choses qui deviennent plus cristallisées, je dirais, au secondaire. Le côté normatif est peut-être encore plus important dans le secondaire qu'au primaire. Et si on n'est pas solide là-dessus...
Je sais pas. Toi, tu les vois encore, peut-être les élèves, ils doivent venir après.
Oui, ils reviennent. Oui, ils aiment bien revenir. Ben, les amis qu'ils avaient en primaire ne sont pas forcément ceux qu'ils ont au collège. Hein.
Oui, bien sûr.
Ils restent dans la même classe où ils sont séparés. L'année dernière, j'en avais 4, ils ont été séparés. Moi, j'aurais préféré qu'ils restent ensemble, eux aussi. Enfin, moi, c'était comme ça. Mais ils ne sont pas restés. Enfin, il y en a 2, je sais, oui. Mais autrement, les autres, non. Parce que, bon, ben, ils font d'autres rencontres.
Mais vous, en tant qu'enseignante et enseignant, le fait de suivre les élèves, en fait, même au-delà de leur scolarité primaire, d'avoir encore un contact, ça fait partie de votre conception de votre travail. Mais moi, j'ai l'impression, j'ai vécu ma scolarité en milieu urbain, ça venait pas du tout à l'esprit aussi bien de la famille que moi en tant qu'élève. Et d'avoir ce lien qui se poursuivait avec l'enseignant au-delà, non ?
Non, moi je pense que ça existe aussi en milieu urbain, il n'y a pas de raison. On arrive à créer des liens aussi avec nos élèves en milieu urbain, il n'y a pas de... Je pense que ça dépend là, du statut de l'enseignant et de comment on s'implique d'un point de vue enseignement, mais... Pour avoir fait les deux, rural et urbain, mes élèves qui partaient ensuite au collège venaient continuer à venir me voir. Alors là, ils parlaient du samedi matin. Oui, oui. Et puis longtemps, ouais.
Ok.
Moi, je voudrais juste intervenir parce que j'étais instite aussi. Ça fait 11 ans hein, que je suis en retraite. Je sais que je rencontre d'anciens élèves qui sont fiers de me dire qu'ils ont eu le bac, qui poursuivent des études supérieures. Pour certains même maintenant, qui sont parents aussi. Et je sais pas, moi je trouve que ça existe. Et j'ai fait du rural, et j'ai fait urbain, je vais aux alentours de Rennes. Et ça m'arrive, quand je peux. Puis maintenant avec les réseaux sociaux aussi, quand on peut retrouver des anciens élèves.
Oui.
Quand ils vous retrouvent aussi, je trouve ça génial, quoi. Et ils sont fiers de vous dire. Bien, ils se rappellent de choses qu'ils ont vues avec vous
c'est ça,
en CM1 ou en CM2.
Et que vous avez contribué à
leur épanouissement. À leur... Mmh.
Alors, moi, je voudrais parler pour moi, hein, puisque j'ai grandi en ville, à Paris. Paris intramuros. À Paris, c'est donc une grande ville. Hein.
Oui. Mais, je confirme.
On fonctionne par arrondissement, en fait. Mmh. Et dans son arrondissement, on peut avoir des rapports, justement, avec des profs, des instits qu'on croise régulièrement. Enfin, dans la rue, chez les commerçants, etc. Et on garde, malgré tout... Des liens, bon, c'est pas des liens comme tu expliquais, hein, c'est plus superficiel, mais il y a une vie de quartier comme un peu dans une petite ville. Et après, au lycée, c'était différent. J'étais dans un autre lycée, donc hors d'arrondissement. Donc là, du coup, j'avais l'impression en changeant d'arrondissement, de changer de ville. Mais j'ai eu quand même des rapports assez. Comme dans l'équivalent d'une petite ville, avec des liens.
On parle de Paris Village hein, aussi, bien sûr. Oui. Les villages de Paris, oui.
Voilà. Et après, bon, c'était différent. C'était au lycée, c'était plutôt l'anonymat total.
Marie, elle l'a très bien dit tout à l'heure, ce qui compte avant tout, c'est le fait qu'on reste longtemps dans un même endroit, que ce soit une petite école de campagne. Alors, peut-être que dans une école de campagne, on est encore plus... les parents rentrent plus facilement dans l'école et tout ça, on est peut-être encore plus en relation avec les parents. Mais si on reste longtemps au même endroit, dans la même école, on crée forcément du lien avec les familles et les enfants, on est identifié, la maîtresse de CM2, la maîtresse de CP, mais on a quand même une identité. Et je pense que ce qui compte avant tout, c'est de rester longtemps quelque part. Ouais.
Oui, et si on reste longtemps, on a les frères et sœurs, donc si on a le dernier de la fratrie, les grands qui viennent nous dire qu'ils ont eu le brevet, qu'ils ont eu le bac ou qu'est-ce qu'ils font comme études. Mais c'est vraiment sur la longueur et sur qu'un des fratries côtoie longtemps les familles en fait.
Là, je pense qu'on touche du doigt quelque chose qui est important, pas simplement pour les enseignants. Avoir du temps pour pouvoir construire, quel que soit notre métier, une relation avec notre milieu, etc., c'est quelque chose d'essentiel, qui nous semble une évidence, mais je pense que dans le monde actuel, c'est quelque chose sur lequel on aurait presque à combattre. Parce que, justement, est-ce que c'est facile, par rapport à l'institution, de rester longtemps à son endroit ?
Oui, c'est très facile. C'est plus facile de rester plus longtemps que de bouger.
Oui, oui. À partir du moment où on a un poste qu'on appelle titulaire, si on ne veut pas bouger, on ne bouge pas. Oui. Si on ne demande pas à bouger, on ne bouge pas.
D'accord.
Sauf fermeture.
Voilà. Oui.
Sauf fermeture. On lutte contre les fermetures.
Là, justement, on entre dans quelque chose qui est important, là aussi. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, lutter ? Parce que c'est le mot, là, en fait. Lutter contre quoi ou pourquoi ?
Ben déjà pour maintenir une école, alors là, une école publique au sein des petites communes, c'est difficile. Hein. En Bretagne, on a une situation un peu particulière.
Ah bon, laquelle ?
Mais il y a certaines communes qui n'ont pas d'école publique.
C'est pas vrai.
Par exemple. Et donc c'est difficile, oui, parce qu'on a une place à tenir. Et puis que il y a des territoires où la population est vieillissante, où il y a plus d'enfants pour remplir nos écoles et on perd des effectifs. Et du coup, oui, c'est des fermetures de classes. Mmh. Donc là, oui, c'est une menace à laquelle on doit penser tous les jours. Ouais.
Et comment on lutte par rapport à ça ?
Comment on lutte ? Eh bien, on intègre les mairies, on se défend pour notre école, on fait des actions pour pouvoir attirer du monde. C'est une façon de lutter différemment. Moi, je viens de l'Est de la France où il n'y avait pas du tout cette lutte-là. Quand je suis arrivée en Bretagne, je dis quoi ? On ne va pas faire de la propagande pour nos écoles ? Et finalement, si, on est obligé pratiquement de montrer tout ce qu'on sait faire. Mmh. Et les deux écoles se valent, hein, c'est pas une histoire de... Mais c'est vrai qu'on est chacun de notre côté en disant, mais regardez ici, on fait ça aussi, on peut faire ça. Enfin voilà, oui, on a l'appui des mairies la plupart du temps, des parents.
Les parents,
beaucoup,
justement.
Qui s'impliquent.
Oui.
Mais bon, ces chutes d'effectifs, parfois on ne peut rien y faire.
Et donc vous avez des exemples justement de ces combats comme ça en fait qui se sont passés sur le territoire pour qui ont été réussis ou pas ?
Bah, chaque année, malheureusement.
Marie.
Oui, il y a des écoles, une classe qui ferme, il y a Trinité-Port-Rouette qui a fermé il n'y a pas très très longtemps.
Une école, ouais, qui a fermé, oui.
Ouais, c'est une classe. Il y a des écoles qui sont à deux classes, qui sont toujours un petit peu en danger, on va dire. On se demande s'il n'y a pas d'arrivée, s'il n'y a pas de famille. Après, l'éducation nationale cherche aussi à récupérer des postes. Ça coûte cher, les petites écoles. Certaines mairies trouvent que ça coûte cher aussi. Voilà, si après on essaye de regrouper en nous disant que ça va faire des économies d'échelle ou autre, oui, il y a des écoles. Quand il y a deux classes et on s'aperçoit qu'on arrive péniblement à 25 élèves, on se dit que voilà, faudrait que ça remonte. L'éducation nationale ne fait pas beaucoup de cadeaux pour les petites écoles, quoi.
Oui, il y a une gestion de plus en plus mathématiques et donc économique, oui. Et qui fait que on a des seuils ou des choses comme ça, là où avant il y avait des possibilités de négocier beaucoup plus facilement. Il y a 10 ou 15 ans, au moment du mois de septembre, s'il y avait des fermetures de classe, il y avait la possibilité d'être reçu et d'expliquer un projet sur 2 ou 3 ans qui pouvait revenir, et il pouvait y avoir des dérogations beaucoup plus faciles. Maintenant c'est difficile, même si sur notre secteur on a quand même eu cette année un retournement de situation d'une classe qui devait fermer, et grâce au soutien de la mairie et des parents et des enseignants, bien sûr, qui ont réussi à faire changer la donne. Mais à un moment, il va falloir retrouver les élèves après. Mais oui. Donc, c'est, en termes de combat, c'est la mobilisation de tout le monde,
oui.
mais qui se heurte quand même maintenant à la logique économique.
Je dirais même la logique financière, comme ça, en fait, parce que je crois qu'il faut employer les vrais mots, parce que c'est pas simplement une question économique, parce que si on avait ces raisonnements-là, l'économie est pas simplement financière. Malheureusement, la rentabilité, on parle pas de rentabilité sociale, on parle de rentabilité financière les trois quarts du temps.
Alors, quand je dis économique, c'est qu'on part d'un nombre d'enseignants, il faut faire avec.
Oui.
Donc, il faut déshabiller l'un pour habiller l'autre.
Bien sûr.
L'autre logique, ça serait de dire de combien on a besoin pour.
C'est ça.
Et là, on serait dans une autre.
On définit le budget a priori, alors qu'on pourrait. Il serait plus utile de le définir a posteriori, oui. Tout à fait. Des enseignants en milieu rural, mais je pense partout, comme ça, en fait, ça ne travaille pas tout seul. Ça travaille avec des conseillers pédagogiques, ça travaille aussi avec des intervenants, j'imagine.
Oui, en milieu rural comme en urbain, il y a les RAZ qui sont en voie de disparition, malheureusement.
C'est quoi les RAZ ?
Ce sont les réseaux d'aide spécialisés auprès des élèves en difficulté scolaire.
D'accord.
Généralement, ce sont des réseaux qui sont rattachés, enfin à l'époque, puisque maintenant c'est un petit peu plus les pôles pédagogiques. C'était constitué avec un psychologue scolaire, un maître rééducateur et puis un maître d'adaptation qui travaillait plus sur le comment faire pour apprendre, en fait.
D'accord.
Donc, ce sont des enseignants qui se déplacent sur un secteur. Et là encore, pour des raisons budgétaires, on leur a sucré souvent les remboursements de leurs frais de déplacement.
C'est embêtant pour bouger, oui.
Oui, c'est très embêtant pour bouger.
Au-delà des frais de déplacement, c'est directement au nombre de postes, hein. Non seulement ils ne se déplacent plus, mais ils n'existent plus, là.
Nous, je sais, sur Bégnon, je pense que... Alors, on a encore un psychologue scolaire qui vient, mais les enseignants du RAZ, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu un, quoi.
Ah oui.
Sur le coin, maintenant, il y a des enseignants du RAZ, mais qui sont affectés à des écoles qui bougent beaucoup moins. Je ne sais pas si tu en as chez toi, mais...
Oui, ils sont sédentarisés beaucoup, maintenant.
Oui.
Après, on peut avoir des intervenants pour des actions, sciences ou autres, pour des projets spécifiques.
Mm-hmm.
Mais là aussi, on a les contraintes qui sont aussi de plus en plus lourdes. Monter des projets, c'est pas simple de faire venir des... Il y a plein de gens qui seraient prêts à venir et administrativement, c'est pas simple de monter des projets.
Ça veut dire quoi, c'est pas simple ? Pourquoi ?
Par exemple, pour les intervenants sport qui soient autorisés pour même accompagner à la piscine, il y a des fichiers, il faut qu'ils aient des habilitations ou qu'ils soient rattachés à des structures qui, elles, sont autorisées, qui sont partenaires. Je trouve que ça devient de plus en plus difficile. On ne peut pas faire intervenir, par exemple, je sais pas, il y aurait un peintre ou un menuisier dans le coin, on voudrait qu'il vienne faire découvrir son activité. Ça, non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible ? Et pourquoi, alors ? Je joue les naïfs, hein, mais...
Administrativement, il y a des contraintes qui font qu'il y a des obligations, de par la loi, de vérifier que les personnes sont aptes à intervenir. Bon, ça dépend s'ils sont bénévoles ou professionnels.
Mm-hmm.
Mais bon, sur le secteur de Plouamel, alors, ça concerne maintenant Yannick, pas encore Marie, qui n'est pas sur la communauté de la nouvelle Comcom de Plouamel. Il y a quand même une structure comme la Comcom qui facilite la possibilité d'amener des intervenants extérieurs avec ce qu'on appelle le PEL, plan éducatif local. C'est un plan qui a pour ambition d'amener la culture ou d'amener le sport dans les écoles ou de créer un parcours. Hein.
Oui, on a un intervenant bois, travaille sur le bois, Emmanuel Panfil, je crois que c'est ça, son nom de famille, qui vient dans l'école, donc il va venir 8 fois, il est déjà venu 4 fois. Donc les enfants scient, clouent, enfin c'est le bonheur. Hein. Ça faisait longtemps que je rêvais d'un atelier de bois, c'est génial.
Oui. Et c'est là l'intérêt quand même de la Comcom ou des municipalités qui, eux, peuvent dégager des personnes pour organiser et pour faciliter ce travail. Parce que quand l'enseignant se retrouve tout seul à devoir organiser ça, c'est beaucoup plus compliqué. Comment je vais trouver le bon intervenant, est-ce que j'ai le droit, comment le rémunérer, qui fait le dossier, qui organise tout ça. Et là, on a des endroits où c'est beaucoup plus facile que sur d'autres. Là.
Mm-hmm.
On a peut-être que Magali, que j'aperçois derrière nous, peut nous
en
parler.
Oui, Magali.
Elle est un petit peu spécialisée là-dedans. C'est intéressant quand on a des partenaires institutionnels qui sont là pour aider et pour faciliter les choses, parce que sinon, ça peut être compliqué.
Effectivement, sur Plouamel Communauté, il existe un projet éducatif local. C'est un dispositif ancien puisqu'il a plus d'une vingtaine d'années. Avec la fusion des communautés de communes en 2017, c'est un dispositif qui a été repensé pour pouvoir s'adapter à ce nouveau territoire. Donc, a pour ambition tout simplement de donner accès à la culture au sens large à tous les enfants de son territoire. Donc, c'est un objectif ambitieux, oui. Mais il faut avoir l'ambition pour les enfants de son territoire. Et la collectivité a fait ce choix fort, qui est un choix politique fort, mais qui est aussi un choix financier fort, puisque la communauté de communes prend en charge l'ensemble des coûts afférents aux mises en œuvre, aux intervenants qu'elle met à disposition des écoles. L'idée étant que soit le lieu où l'enfant habite sur le territoire, il a les mêmes droits et on doit lui donner le même accès à l'ensemble des activités proposées.
C'est un beau programme, hein, c'est effectivement. Oui.
On est conscient que c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein.
Ah oui, oui, sans doute pas. Sans doute pas. Mais ça, c'est au moment de l'après-guerre. En fait, le Conseil national de la Résistance, il avait comme principe la continuité territoriale, etc. Quoi, en fait. Normalement, il ne fallait pas qu'il y ait un enfant ou même un Français ou une Française qui soit dans un endroit reculé qui n'ait pas les mêmes services que ceux qui sont en ville. Et donc on voit bien qu'on est à un moment où ce sont des notions qui sont combattues par des évolutions de plus en plus financières de notre conception du service public, entre autres, quoi, en fait, voilà. C'est plus large que le domaine éducatif. Myriam, tu disais tout à l'heure que la question était la même difficulté pour des artistes pour intervenir, toi.
Je vais parler donc avec ma casquette d'artiste, mais pour des raisons toutes personnelles, j'ai pas fait de PEL cette année, mais j'ai été très 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 chaleureusement invitée par Magali qui vient de témoigner, et c'est un dispositif qui effectivement rassure beaucoup aussi du côté des artistes, non seulement je suppose des enseignants, les artistes ont aussi à qui s'adresser, savent à qui préparer une facture, etc. Au-delà de ça, le travail avec les gosses est toujours merveilleux. Vous dites qu'ils clouent ici et que vous en rêviez depuis longtemps, les enfants sont ravis, mais les enseignants répondent à fond à ce type d'intervention. Et voilà, pour avoir mené un atelier de modelage en terre avec des tout jeunes élèves, les parents présents en classe rassuraient les enfants, mais découvraient eux aussi les joies de patauger dans la glaise.
D'autres questions, Didier?
Oui.
Ou d'autres réflexions?
Alors, d'un côté, on a l'impression de bloquer des choses, de bloquer des projets, d'être des méchants qui bloquent les projets.
Si, mais il faut se dire que... ça se voit sur la figure.
Mais il faut se dire aussi que, pour beaucoup, l'école est un objectif. On a l'impression qu'à l'école, on peut y venir y faire tout et n'importe quoi. Et on a quand même l'obligation d'instaurer un cadre. Si on est artiste, eh ben, on ne vient pas forcément faire dessiner. Nous, on a quand même des objectifs qu'on a envie de remplir. Et ça veut dire que c'est normal aussi que tout le monde ne rentre pas dans l'école comme il veut.
Personnellement, j'en doute pas. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas actuellement dans un moment où c'est des choses qu'on voit, je pense, dans le secondaire, où les obligations, les critères deviennent de plus en plus stricts et interdisent de vagabonder sur des choses qui sembleraient moins utiles, comme, les lettres, le latin, moi qui m'a passionné, enfin voilà, qui me passionne toujours.
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les conditions ou le vagabondage, mais on est quand même aussi dans une ère où on a eu un summum à un moment où les programmes imposaient de faire beaucoup de choses, oui. Et où maintenant on raisonne en termes de compétences, de savoir faire des choses, donc ça ouvre quand même des portes. L'art est quand même une des priorités, normalement, dans l'éducation nationale, dans le premier degré, en Bretagne maintenant, c'est une priorité. Donc on incite, enfin, le recteur incite les collègues à travailler dessus. Donc on entend parler français, maths toujours, mais c'est surtout s'exprimer, dire, lire, écrire à travers des domaines. Hein.
Et vous, sur le terrain, vous le ressentez comme ça aussi, Marie ?
Moi, je crois qu'avec les programmes qu'on a et qu'on se doit d'appliquer, on peut quand même faire pas mal de choses. On a quand même une certaine liberté pédagogique de mener au moins les choses de la façon dont on veut. Et puis d'axer plus sur un côté ou l'autre des programmes, sachant que de toute façon on ne peut pas tout faire, et ben ça nous laisse
aussi
la liberté de choisir ce qu'on va faire.
Et à côté de ça, est-ce que vous avez, par exemple, des activités sportives? Est-ce que c'est des choses qui sont aussi faciles en milieu rural qu'en milieu urbain? Est-ce que le fait d'avoir peut-être moins d'équipement, c'est, enfin, ou c'est une image que j'ai dans la tête, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas véritablement un problème? Parce qu'on peut avoir des super équipements et puis pas les utiliser, en fait. Bon, je sais pas comment vous le ressentez.
Alors jusqu'à cette année, en fait, parce qu'à partir de cette année, on va plus pouvoir le faire. On faisait un cycle de 8 séances au complexe sportif de Moron. Donc on retrouvait d'autres écoles. Et on se regroupait par niveau pour faire des activités. Et ça dépend de la com-com. Enfin, c'est assez compliqué. Donc on n'a plus droit. Enfin, on va plus pouvoir. Ou ça va plus être financé. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Voilà. Donc on va plus le faire. On va plus aller sur Moron. Mais bon, à Saint-Brieuc-de-Moron, on a une salle socioculturelle, un beau plancher, une magnifique salle. Et moi, je peux l'utiliser avec les enfants, quoi.
Ah, oui.
Donc, c'est vraiment un beau cadeau. On a de la chance, quoi. Mmh. Parce que je ne sais pas si toutes les mairies mettent à disposition des salles. Enfin, on sait rien, peut-être. Enfin, on a le droit d'y aller comme on veut. On met le chauffage et hop. Voilà. Donc, on peut faire de la danse, on peut faire du sport, pas avec des ballons qui rebondissent trop fort sur les lampes. Mais quand on avait un intervenant sportif, donc je n'ai pas choisi sport cette année, j'ai choisi bois et art plastique, mais on pouvait faire l'hiver du sport là. Puis il y a un terrain de foot, donc on peut aller aussi faire de l'athlétisme là-bas.
Ok.
Puis on a une cour, on n'a pas de piscine, mais.
Et c'est dommage d'avoir choisi bois cette année à la place du sport, parce que maintenant la Coupe Davis, elle a disparu. Hein.
Mac Davis.
Je pense qu'il y a un métadiscours.
Par rapport à ce que tu dis, par rapport à la salle, c'est vrai que par contre, quand on est dans des écoles rurales, il arrive qu'il n'y ait pas de structure adéquate. Là, il faut faire avec la petite salle qu'il y a dans l'école, qui peut servir de salle de motricité ou pas. Et par contre, je pense à autre chose aussi qui fait une grande différence par rapport aux écoles urbaines. C'est la proximité qu'on a quand on est en ville, d'avoir accès à tout ce qui est artistique, musique, concert, musée, voilà, et choses comme ça. Alors, quand on est dans une école rurale, bien sûr, on peut y aller. Mais à chaque fois, il faut payer le quart. Et payer le quart, il arrive un moment où c'est problématique. Alors, soit on a une très bonne amicale laïque,
c'est ça.
Soit on a une très bonne coopérative où on peut cumuler les deux. Soit on a une commune qui est proche de son école et qui veut bien participer. Et puis des fois, on a une toute petite amicale laïque, on n'a pas de coopérative scolaire et la commune n'est pas spécialement portée à vouloir accompagner l'école.
Ça
peut être quand même, quand on est sur une école rurale, quand on parlait tout à l'heure d'avoir les mêmes chances, les mêmes égalités et les mêmes possibilités pour tout le monde, par rapport à tout ce qui est la culture, c'est... Là, il y a quelque chose d'un peu compliqué.
Ouais, sur les pratiques culturelles, c'est pas tout à fait la même chose qu'effectivement les équipements géniques.
Oui, alors moi j'allais dire encore, j'ai beaucoup de chance parce que sur le territoire de Moron, on a toujours eu quelque chose. On avait l'Office culturel de Moron qui nous proposait des spectacles. Et moi, comme j'étais à cheval sur le cycle 2, cycle 3, j'avais deux spectacles dans l'année.
Ah, c'est stratégique tout ça.
Oui, tout à fait. Et le transport était pris en charge par l'office culturel. C'était l'amicale qui payait les entrées, parce qu'on ne demande jamais de sous aux parents. Et puis là, depuis la grande com-com, c'est Plouermel Communauté qui nous offre le transport. Donc on va au spectacle aussi. Donc on a vraiment de la chance.
Ouais.
Oh, d'ailleurs, moi je dis aux enfants, à chaque fois que j'ouvre la porte, je dis « Regardez, vous avez vu la chance qu'on a d'être dans les arbres ». Dans la
verdure. Justement.
On a tous les avantages.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui est aussi une des caractéristiques, c'est le fait que vous avez un terrain extraordinaire, vous pouvez sortir ou peut-être plus facilement qu'en milieu urbain, non?
Oui, on est proche de la nature. Hein. Toi, je sais pas comment c'est à Baignon. Mais...
Oui, nous à Baignon, on traverse la route et on est dans la forêt de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, pour aller au spectacle ou autre, Nous, on a une communauté de communes qui n'est pas du tout aussi large que celle de Plouermel-Mouron. Donc, on fait venir des spectacles où on va au spectacle, mais c'est vrai que ça coûte cher. Quand on veut aller à Rennes, c'est d'abord les écoles de Rennes, après les écoles de la métropole de Rennes. Après, ils élargissent au département. Et quand on vient du département d'à côté, si on trouve une date possible pour aller soit à l'espace des sciences à Rennes, soit au musée des Beaux-Arts, ben, ça arrive une fois par hasard, et c'est pas tout le temps, sans parler du coût, évidemment, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que nous, pour ça, on dépend vraiment des partenaires de l'école. Après, nous, on a une amicale laïque qui nous paye un projet culturel, donc on a ciblé sur deux classes tous les ans. Mais là, question sous, c'est vrai, les deux tiers passent dans le transport. Et puis, et après, il faut avoir de la chance pour avoir une place sur un théâtre, sur un musée, quoi. Donc ça, oui, c'est difficile. A contrario, ben, on traverse la route, on va dans la forêt, donc on fait aussi plus de choses avec des projets sur la biodiversité comme cette année, on fait du land art dans la forêt, au bord de la rivière.
Alors c'est quoi le land art?
On a une artothèque, oui. À Baignon, on a une artothèque et on travaille avec, tout à fait. Land art, ben, on va utiliser les feuilles, les branches, les souches pour créer des œuvres d'art éphémères qui s'envoleront à la première tempête ou qui seront sous l'eau. Mais voilà, on crée quelque chose avec ce qu'on a autour. Et c'est vrai que ça, les gamins adorent. Après, on ne va pas forcément voir des musées plus loin, mais on fait le lien avec tous les moyens qu'on a, vidéo, et tout ça pour qu'ils élargissent quand même leur horizon.
Moi, j'aimerais évoquer aussi des initiatives comme celle le Festival des Enfants de la Lala qui est porté par Timbre FM. Bon, quand on connaît la difficulté qu'a la radio à essayer de maintenir l'initiative, alors qu'elle a vraiment trouvé son public, qu'elle est tellement suivie même que parfois c'est pas possible d'accepter toutes les demandes, ça semble un petit peu étonnant qu'on n'ait pas les moyens de la facilité. Comme
on en a profité pendant 2 ans, je crois, les 2 années où il y a eu des spectacles scolaires. Mais là, cette année, il n'y a pas eu de spectacle scolaire. Donc, bon, certains enfants, ils sont après allés pendant les vacances. Mais au point de vue scolaire, oui, ça, c'est vrai que c'était vraiment chouette comme initiative. Et bon, espérons que ça reprenne.
Mais je persiste. Enfin, je précise que si ce n'est pas une question de mauvaise volonté de la part de la radio.
Oui, tout à fait.
Il faut dire les choses.
Un manque de financement.
Et c'est vrai que pour apporter la culture aux enfants, il y a plusieurs partenaires. Par exemple, quand Marie parle de Baignon, ça veut dire que Baignon, il y avait un coût qui avait été négocié avec le festival, donc l'école financée, mais sur des kermesses, sur des choses comme ça. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi la deuxième part de financement, qui est du financement public, parce que la culture, elle ne peut pas être financée que par des parents qui organisent des choses dans les écoles. Donc il y a vraiment deux parts des choses, et sur le festival, ça fonctionnait très bien avec la radio parce que vous étiez content du spectacle qui était proposé, de la préparation qui était proposée. Ça fonctionnait bien de la part des écoles qui ont rempli les salles à chaque fois qu'on leur a proposé. Après, la culture, elle ne peut pas être portée que par les écoles. Et c'est pour ça que les initiatives du type de PEL qui aident à vivre les écoles. Parce que c'est vrai que chaque territoire se défend et a tendance à bloquer. Si on prend une école, on va prendre une école, par exemple, du territoire, on va prendre par hasard du côté de Monteneuf. Juste par hasard, une école qui n'est pas dans un dispositif PEL où on organise des spectacles pour elle, qui veut aller sur Vannes, parce qu'elle n'est pas très très loin de Vannes, elle ne fait pas partie de la bonne com-com, elle ne peut pas avoir, même si les parents veulent les aider à développer la culture à l'école, on ne peut pas parce qu'on ne leur ouvre pas les portes, parce que chacun se garde pour ses écoles de son territoire. Ouais. Donc c'est la culture à l'école, c'est avant tout un problème politique, avant d'être un problème de l'école, à mon avis.
Oui, et c'est un problème de politique qui se traduit dans les sous.
Là, du coup, on dit les écoles vont vers l'art, la culture, les salles de spectacle. Et je pensais, par exemple, à l'initiative du Grand Soufflet, qui, à l'échelle des 3 départements autour de Rennes, il me semble, le Festival de l'accordéon rennais, donc bien connu là-bas, se déplace et propose des choses dans les communes périurbaines ou rurales carrément. Est-ce que par exemple les écoles, vous savez ça, vous avez accès? Est-ce que ce type de festival contacte les écoles ou s'adresse simplement aux salles des communes par exemple?
Ça dépend. Certains envoient des mails dans les écoles. Ça fonctionne beaucoup par bouche à oreille. On connaît, on se fait passer les adresses, on sait, il y a des compagnies qu'on connaît. Mais ça ne remplace pas le fait d'aller dans une vraie salle de spectacle, par exemple. Parce que quand les spectacles viennent, bon, c'est dans une salle polyvalente qui est aménagée. Ou autrement, à Moron, il y a un bel espace. Mais autrement, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais en école rurale en Ille-et-Vilaine, d'aller, par exemple, visiter l'opéra de Rennes, de faire des activités avec des musiciens de l'Orchestre National de Bretagne. Et c'est vrai que ça prend une autre dimension, quoi. Et après, d'aller les voir en répétition générale à Rennes, à l'Opéra de Rennes, c'est vraiment autre chose. Alors, il faut les deux. C'est vrai que les spectacles viennent... on peut les faire venir, il faut les trouver. Après, on n'est pas spécialiste, donc c'est beaucoup le bouche à oreille parce que pour avoir quelque chose d'intéressant. Mais aller sur place, aller à Rennes, même si ça fait du quart, mais si on peut se le payer, aller à Rennes dans un vrai spectacle, voire dans une salle de concert, c'est autre chose.
Et là encore, tu disais choisir, parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent proposer plein de choses aux écoles. On se dit, les écoles, elles ont plein d'argent, les écoles, elles ont plein de choses. Et il y a aussi un peu d'escroquerie, des fois. Hein.
Ouais.
Des fois, il y a des gens qui demandent des sommes énormes pour présenter des choses qui ont très peu d'intérêt, HP.
Je rejoins tout à fait ce qui s'est dit. Je trouve que l'intérêt du milieu rural, c'est aussi la nécessité, dans ce cadre-là, d'être inventif et d'être créatif. Parce que concrètement, les musées, on en a peu. Les opéras, encore moins. Et ça nécessite du coup de se mobiliser différemment, de monter des projets qui sont différents. Moi, je fais écho du coup au projet qui a été monté l'année dernière par les conseillers pédagogiques sur un gros projet art qui a accueilli des centaines d'enfants du territoire. C'est très différent de ce qu'on aurait pu proposer dans un musée, mais c'est donné aussi aux enfants grâce aux moyens dont on dispose, un accès tel qu'on peut le faire avec les moyens qu'on a. Et je trouve tout l'intérêt du milieu rural à ce niveau-là, c'est l'inventivité, la créativité qui sont nécessaires, c'est la mobilisation des réseaux. Puisqu'aujourd'hui, c'est quand même comme ça qu'on fonctionne le mieux en milieu rural, c'est en communiquant, en échangeant et en avançant ensemble.
Et sur la dimension, par exemple, patrimoine, est-ce que c'est des choses qui, au-delà de la dimension histoire, est-ce que c'est des thématiques que vous utilisez, que vous abordez dans le cadre de votre métier ?
Moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. On a travaillé il y a quelques années autour de la guerre 14-18. Donc, c'était quoi, en 2014 ou en 2018 ? 2018. Et les deux. Voilà. Et là, c'est vrai que toutes les écoles du territoire qui voulaient adhéraient. Et on avait travaillé, par exemple, sur le monument aux morts. Et c'est vrai que c'est du local. Et après, on peut aller plus loin. Mais c'est quand même, c'était un projet qui rassemblait plein d'écoles. Mais chacun travaillait, on va dire, sur sa commune. On avait eu des temps collectifs de visites de musées. On était allé à Lisieux. Après, le patrimoine, c'est toujours pareil. S'il y a un château ou quelque chose d'intéressant, faut aussi toujours se déplacer. Et le moindre déplacement en car, ça, c'est vraiment, c'est souvent problématique dans les coins. Nous, maintenant, on fait beaucoup à Bégnon. Notre patrimoine local, c'est la forêt. Ouais. Donc, on va en forêt.
Mais il y a du patrimoine même bâti à Bégnon. Mais justement, ça suppose aussi des compétences pour pouvoir savoir le regarder, etc. Quoi, en fait, je vois des clins d'œil.
On avait fait tout un projet sur l'architecture aussi. Oui. C'était quand ça, il y a 2 ans?
C'était quoi ce projet sur l'architecture?
C'est justement mieux connaître son patrimoine local, découvrir à partir de l'école où on est. L'architecture de notre école, la comparer avec des bâtiments autour très différents ou très ressemblants. Ouais. Pourquoi très différents, pourquoi très ressemblants? En fait, on était sur l'observation de notre territoire le plus proche. Quoi. Et puis ensuite, on a comparé une des merveilles du monde avec à un bâtiment de notre territoire, lequel était le plus ressemblant, lequel était le plus différent. Et puis, on a agrandi un petit peu comme ça. On aurait voulu que ce projet-là ait une plus grande résonance au-delà de notre territoire. Ça s'est arrêté à nos territoires, mais c'était déjà pas mal. Il y a eu un beau livre qui a été fait par rapport à ça, des écoles de la circonscription, en fait, où chacun présentait son petit bout, enfin, son bâtiment. Ou, enfin, voilà. Et puis, il y a eu des confrontations d'écoles aussi. La nôtre, elle est comme ça, la vôtre, elle est comment. Voilà, il y a eu des échanges entre les écoles. Voilà, c'était vraiment à partir de son architecture, hein, ce soir.
Didier ?
Oui, par rapport à ce qu'explique Pascal et ce que disait Magali. Dans les écoles rurales, on a sûrement des enseignants qui sont moins consommateurs. On prend le patrimoine, on prend ce qu'on a, oui. Alors que ça peut être un musée, ça peut être quelque chose, et on construit quelque chose par rapport à ça. Ou à d'autres endroits, on leur met, bon, vous venez là, vous posez vos élèves, et ils font. C'est un autre état d'esprit aussi, l'école rurale. L'école rurale, c'est faire avec ce qu'on a, mais inventer avec ce qu'on a, et c'est parfois, alors, pas toujours, hein, parce qu'une expérience comme l'opéra que tu évoques, ou des grands musées dans les grandes villes, c'est quand même extraordinaire, il y a des gens très compétents pour la faire découvrir. Mais si on va ici et qu'on repart et qu'on n'a rien fait en amont ou en aval, c'est un moment avec peu de choses qui reste gravé. Que si on a été obligé d'inventer et de construire quelque chose, à mon avis, on va plus en profondeur.
En tout cas, moi, je peux vous dire, là, je personnalise, mais j'ai organisé de nombreuses expositions et pour lesquelles je m'occupais aussi de les présenter parfois. En fait, quand j'avais la possibilité d'avoir un véritable échange avec les enseignants, c'était plus favorable pour la relation avec les enfants, d'abord, parce que quand vous avez des enseignants qui déposent les enfants et qui s'en vont boire un coup à côté, je peux vous assurer que vous ramez pour pouvoir maintenir l'intérêt des enfants. Bon. Et puis après, en fait, avoir véritablement une collaboration, c'est là ce qui vous entraîne. Moi, je suis entre autres historien de l'art, mais quand on commence à délirer comme ça, en fait, il y a quelqu'un en face qui vous fait des signaux de sémaphore en disant là, tu les perds. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je aussi sur la dimension patrimoniale, je pense que maintenant, on va privilégier, enfin, et c'est légitime, la dimension environnement naturel, mais l'environnement bâti, le fait de savoir regarder, tout simplement, c'est des choses dont j'ai l'impression que le monde a besoin, quoi, en fait, parce qu'il y a plein de personnes qui passent à côté de leur environnement et pas simplement naturel. Et donc là, j'ai la sensation qu'un gros travail est à faire, c'est pas simplement pour vous.
On est en train de le faire, ça se fait.
Mais ça repose pas uniquement sur vous, c'est ça que je veux dire. Et vous n'iriez pas en ville, quoi.
Ah non.
Ah non.
Non.
Non. Bon, c'est fini.
Moi, ça n'a jamais commencé. Enfin, je suis de Vannes, hein, je suis d'une ville, mais quand j'étais à l'école normale et qu'on a fait notre liste de les vœux. Je voulais être en campagne, et puis je me rappelle, c'était Mazelonet à l'époque, je ne sais pas si tu as connu Mazelonet, non, qui était professeur d'art plastique. Puis il me dit, bah oui, mais si tu veux aller en campagne, hein, forcément, tu vas te retrouver en classe unique. Je dis, bah, je ne sais pas savoir faire, mais ici, finalement, on arrive.
Et est-ce que c'était un choix atypique, ou est-ce que
On était forcément envoyé en campagne, de toute façon, quand on débarquait de l'école normale. Et moi, j'y suis restée, oui.
Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait d'autres candidats à l'isolement rural ou
une poser obligation. Poser la question à Marie et à Yannick sur si elles veulent être en ville, c'est presque une insulte. Hein. Elles sont beaucoup trop jeunes pour être en ville. Hein.
Ah oui, il faut être vieille.
D'accord. Ok. Bah écoutez, on arrive au terme. Là, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Je trouvais que, enfin, moi, j'ai passé un moment sympathique. Et puis, je pense qu'on a dit des choses, importantes, sérieuses, sans se prendre au sérieux. C'est un petit peu la thématique des blabla. Comme d'habitude, on n'a pas été jusqu'au bout de toutes les questions. Donc, ça veut dire que ça nous donne des envies de revenir sur certaines choses. Et puis, le prochain rendez-vous, ce sera en janvier au Champ commun sur éducation non scolaire, l'apprentissage de l'autonomie dans et par le groupe. Alors là, vous savez que vous avez des personnes qui, au sein d'Essentiel Pleu Hermel, défendent l'éducation populaire. Il y a des mouvements, il y a des éclés là qui sont derrière, entre autres du scoutisme, mais c'est pas la seule chose. Pour ça que nous, on y est attachés. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis attaché par ce biais-là aussi. Et je remercie aussi Hervé, au platine, et puis Patricia. Merci à tout le monde et puis à bientôt.
Les blablas de l'ESS, c'est sérieux?
Sans se prendre au sérieux.